questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer, la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Cette semaine, nous parlons d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Rage des dents » de et avec Anne-Marie Teinturier, un spectacle qui explore les aspects les plus drôles comme les plus douloureux de la relation entre un aidant et son aidé. Pour parler de cette pièce, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie Teinturier, auteure, comédienne, compositrice et chanteuse. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Valérie.
Avec nous également, Aline de Gracia, psychologue. Bonjour Aline.
Bonjour Valérie, bonjour Anne-Marie.
Merci à toutes les deux d'être avec nous. Alors pour commencer cette émission, Anne-Marie, est-ce que vous pouvez nous résumer cette pièce de théâtre ?
Oh, la résumée, ce serait plutôt une présentation de scénique, on va dire. Ça se passe dans un groupe de parole. Donc sur scène est représenté le groupe de parole, les chaises, une chaise pour la psychologue, les chaises pour les participantes. Et ce sont des aidantes qui évoquent leurs difficultés, leur colère, mais aussi voilà, leurs petits moments de joie, leur... Ils se répondent, c'est ça la pièce.
Vous qui l'avez vue, Aline, un mot pour compléter peut-être ?
Oui, alors effectivement, en tant que spectatrice, on assiste à une galerie de portraits d'aidantes qui vont chacune leur tour partager les situations de la vie quotidienne qu'elles vivent avec leurs proches et les difficultés que vont entraîner la présence des troubles cognitifs et de la maladie.
Anne-Marie Teinturier, pourquoi écrire sur ce sujet ? Vous êtes vous-même concernée par le thème ?
Oui, je suis très concernée puisque je suis l'aidante de ma mère qui est atteinte de ce qu'on appelle une démence mixte, donc une maladie apparentée à Alzheimer. Avant cela, malheureusement, j'ai aussi accompagné d'un peu plus loin, mais quand même beaucoup, la maladie de mon père. Il a eu la maladie de Charcot, il est décédé il y a 7 ans, et c'est ma mère qui était l'aidante principale. Mais j'allais très souvent passer quelques jours là-bas en région parisienne, et donc je voyais déjà au plus près son épuisement aussi à elle. Donc j'arrivais moi pour la soutenir et soutenir mon père, mais je voyais bien et je l'entendais déjà beaucoup se plaindre, et je la voyais aussi dégringoler psychiquement et physiquement. Et maintenant, voilà, maintenant malheureusement c'est elle qui est malade et c'est moi qui m'en occupe. Vraiment, depuis 2 ans et demi, l'écriture, c'est venu, c'était pas du tout au départ l'idée de dire je vais écrire une pièce. Moi, j'écris des chansons, j'écris des romans, mais je suis toujours en train de noter des choses. Et depuis que je m'occupais de ma mère, j'avais ressenti le besoin d'écrire sur ce sujet. Donc, j'ai des traces de cela un petit peu partout, des moments où j'étais complètement effondrée, des moments où... où je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait, des moments où la colère, où la culpabilité, la souffrance, sa souffrance et la mienne me débordaient. Donc j'ai commencé à écrire. Et en fait, cette pièce est devenue une pièce parce qu'un jour, tout simplement, j'étais en train de coudre des étiquettes à son nom, puisque il y a quelques mois, ma mère est entrée en institution. Donc j'ai vécu cette transition aussi. Il a fallu lui coudre des étiquettes à son nom sur ses vêtements pour que dans l'établissement on puisse lui laver et que les vêtements ne se perdent pas. Et je me suis vue à un moment vraiment, c'était comique, hein, j'en riais parce que j'étais là le soir, je rentrais de mon travail, je cousais, voilà. Et puis il y a même des jours où j'apportais du linge. J'apportais 3-4 vêtements à ma mère et puis je lui disais allez on va coudre ensemble, ça nous faisait une activité ensemble. Et j'ai commencé un peu littéralement à tirer sur ce fil. Je dis littéralement parce que voilà, j'ai proposé à ma mère de coudre avec moi. J'étais là en train de coudre et je me disais mais oh là là, c'est pas possible. Et puis tout est venu comme ça. J'ai visualisé une scène et j'ai commencé à écrire la première scène en l'occurrence de la pièce où l'aidante est en train de coudre. Voilà la naissance de cette pièce. Mais au départ, c'était vraiment juste pour sortir un peu ce qui me venait, quoi.
Alors, l'aidant, c'est un sujet central. On en entend de plus en plus parler. Aline, dans votre pratique, la dégringolade, comme le dit Anne-Marie, hein, des aidants, c'est quelque chose que vous constatez aussi ?
Effectivement, accompagner son proche atteint de la maladie d'Alzheimer, ça va provoquer de nombreux bouleversements dans la vie du malade, bien sûr, et dans la vie de l'aidant, et notamment des bouleversements émotionnels qui vont pouvoir aller du chagrin à la dépression, en passant par la colère, comme Anne-Marie vient de nous le dire. Il y a autant d'aidants, je dirais, que d'individus, et chacun va traverser ce moment de vie comme il le peut. Pouvoir mettre des mots sur ce que la personne ressent en tant qu'aidant, ça peut justement aider à mettre de la distance avec certains événements qu'il est en train de vivre, de pouvoir partager aussi avec les autres et au final commencer à prendre soin de soi, parce qu'on sait que ce qui est très difficile pour les aidants, ce qui est parfois même oublié par eux, c'est de prendre soin d'eux-mêmes. Et c'est là où, effectivement, la pièce d'Anne-Marie peut soutenir certains aidants qui vont se reconnaître dans certaines situations, dans certains propos, et du coup, de devenir un groupe de parole, je pourrais dire, qui s'élargit. C'est vrai que le thème de la pièce, c'est pas le thème, mais le lieu se passe dans un groupe de parole. Finalement, lorsqu'on assiste à la pièce de théâtre, on a l'impression de faire partie de ce groupe de paroles. Et pour les aidants, ça peut être un exutoire, si je puis dire.
On va revenir à la pièce. Anne-Marie, quel sujet avez-vous mis en avant ?
Énormément de sujets. On a parlé beaucoup des émotions. Aline vient d'en parler de nouveau. Les bouleversements qu'on peut traverser psychiques ou physiques. Mais comme il y a l'idée de ce groupe de parole, et je voulais aussi préciser justement puisqu'on parlait tout à l'heure de la naissance de la pièce, que ensuite, quand j'ai continué à tirer sur le fil, pour ainsi dire, j'ai eu cette idée du groupe de parole, puisque moi-même, je participais en tant qu'aidante à un groupe de parole qu'Aline animait. Donc voilà. Et Aline, d'une certaine façon, fait partie aussi de la pièce, parce qu'il y a, à propos des sujets que j'aborde, il y a aussi le côté apprentissage, parce que quand on est aidant, on apprend tous les jours, on apprend énormément de choses. Moi, je trouve que c'est une école de développement personnel extraordinaire, si on veut vraiment se plonger dedans. Hein. Alors, on sait très bien que c'est pas facile. Vraiment, on apprend beaucoup de choses sur soi-même, sur l'humain, sur les relations familiales, etc. Et donc, ce que pouvait dire Aline, pendant les groupes de parole auxquels je participais, c'est-à-dire intervenir de temps en temps, nous expliquer comment ça se passe, rebondir sur ce qu'une telle ou une telle avait dit et nous soutenir en disant « mais c'est normal » et nous donner parfois des indications sur comment faire, etc. Et tout ça se retrouve dans la pièce aussi. Donc, parfois, il y a dans la pièce une aidante qui est très en colère, une autre qui est complètement perdue, l'autre qui tout d'un coup va essayer d'appliquer ce que la psychologue du groupe de parole lui a appris, justement, alors comment faire quand la personne qu'on aide raconte quelque chose qui nous semble complètement absurde, par exemple. Et le premier réflexe, hein, une espèce de réflexe de l'ego ou un réflexe intellectuel, c'est de remettre la personne dans le droit chemin et de vraiment de lui faire entendre raison. Mais enfin, tu dis n'importe quoi, etc. Et la personne, évidemment, réagit très mal. Et donc, dans la pièce, il y a aussi ces situations où on essaye tant bien que mal de se dépatouiller avec ce qu'on apprend ici ou là. Il y a aussi un passage où l'aidante explique qu'elle a suivi une formation, et donc voilà, je joue un peu là-dessus avec humour sur le fait que oh, bah, c'est une vraie formation, et ce qu'elle a pu apprendre qui parfois va l'aider, puis à d'autres moments va la déprimer un peu, comme par exemple qui va faire qu'on va développer Alzheimer plus facilement, et ce qui va être problématique, c'est que cette personne est en train de dire ah bah alors si jamais on boit trop, on mange trop, on dort pas assez, on est stressé, on est en dépression, et ben malheureusement on a plus de chances de développer Alzheimer. Et elle se rend compte au moment où elle est en train de dire que ah bah c'est exactement son mode de vie. Donc et puis dans la pièce, il y a aussi un passage là qui est assez auto-fictionnel, même si je l'ai beaucoup adouci. C'est le passage des frictions à l'intérieur des familles. Quand il y a un malade ou une malade dans une famille, en ce qui me concerne, par exemple, ça va être au niveau de la fratrie, où il y a des conflits terribles et des mots terribles qui sont dits, des ruptures, etc. Et dans les groupes de parole, j'ai entendu beaucoup d'aidantes me raconter la même chose. Voilà, tout d'un coup, on ne s'entend plus, tout d'un coup, il y a des jalousies qui apparaissent, des ruptures de relations, des violences, des règlements de compte terribles. Donc, ça, je le traite aussi dans la pièce.
Comment font les aidants pour extérioriser leur chagrin?
Effectivement, ils ont besoin de pouvoir partager ce qu'ils vivent, de pouvoir dire leurs difficultés, mais ça va demander du temps. C'est-à-dire que lorsque le diagnostic est posé ou pas d'ailleurs, en tout cas lorsqu'on est confronté voilà, à un changement chez son proche et on va commencer à pallier à ses différents besoins, avant de se rendre compte que soi-même on a besoin d'aide et en fonction aussi de chaque individu, ça va demander beaucoup beaucoup de temps.
Anne-Marie, il y a beaucoup de questions des aidants, de la colère aussi, du chagrin. Finalement, comment on gère cela?
C'est une question vaste et spontanément, je dis qu'on ne gère pas. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose qui se gère. Pour moi, c'est plus juste ce que vous disiez de réagir, la façon dont on réagit et puis la façon dont on traverse. Moi, j'ai plutôt vécu ça comme quelque chose que je traverse. Et qui me traverse? Alors après, je comprends dans votre question le terme de gérer, c'est-à-dire parce qu'il faut bien vivre hein, à côté. Bah, parfois, là, c'est difficile. Hein. Parfois, on s'effondre, parfois on pleure, parfois on trouve du courage, parfois je sais pas, parfois on étouffe tout ça parce que c'est pour ça que je disais que le mot gérer me gêne un peu parce qu'il y a des moments quand je suis avec ma mère. Ou quand je pouvais entendre d'autres aidants ou aidantes parler de leur expérience, on voit bien que on essaye tout simplement de laisser tout ça en dedans, malheureusement, pour pouvoir tenir le coup. C'est vraiment à certains moments, il faut assurer. Moi, ce mois-ci, il y a eu 5 rendez-vous médicaux avec ma mère, par exemple. Il y a des moments, rien que de voir sur mon emploi du temps qu'il y a ça, je suis déjà déprimée le matin. Je suis en colère envers mon frère qui, lui, évidemment, n'est pas là. J'en ai marre. Je suis déjà en train de me dire, mais ça n'en finira pas, etc. Donc là, je suis pas dans la gestion. Je suis vraiment prise dans les émotions, mais j'y vais quand même. Donc il y a vraiment l'idée de serrer les dents. C'est aussi pour ça qu'il y a ce jeu de mots dans le titre et puis il y a cette évocation dans la pièce du fait qu'à un moment, bah, faut tenir, quoi. Même si ça grince, il faut bien serrer parce que on y va. Moi, ce qui m'aide, j'ai cette chance-là de d'écrire. J'ai aussi eu cette chose extraordinaire et ce réflexe de survie extraordinaire qui a été de m'inscrire à France Alzheimer et de m'inscrire à la formation, de m'inscrire au groupe de parole, parce qu'à un moment, ça m'a sauvé la vie. C'est aussi pour ça que je voulais mettre en scène cet espace, parce que peut-être si ça peut encourager des gens à y aller, c'est extraordinaire. Alors, comme j'avais pu dire à un moment à Aline, il y a des moments on n'a pas envie d'y aller parce qu'on se dit, oh là là, 2 heures du groupe de parole, c'est encore 2 heures à parler d'Alzheimer, c'est encore 2 heures à être dans la maladie, etc., à parler et à entendre d'autres parler de choses difficiles. Et dans ces moments, il y a certains jours où j'ai plutôt envie d'aller prendre mon vélo et pédaler ou voir des amis. Mais en attendant, là, ça vous donne 2 solutions différentes. Il y a la solution d'aller dans un groupe de parole, de rejoindre une association, notamment France Alzheimer, en l'occurrence quand on a un proche qui souffre de ces pathologies-là, mais aussi d'extérioriser d'autres façons. Et puis aussi faire attention à ne pas parler que de ça. Il y a un moment, je fais aussi un petit passage humoristique par rapport à ça dans la pièce où faut faire attention parce que parfois on parle beaucoup, 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 beaucoup de ces problèmes avec l'aider. Et il faut pas parler que de ça parce qu'au bout d'un moment, j'imagine que les gens, ils en ont marre, nos amis, nos proches. Et puis surtout, nous, ça nous maintient dedans. Donc c'est bien aussi de faire autre chose, quoi, de sortir, de voir du monde. Chacun doit trouver son espace pour se ressourcer. Aline le disait très bien tout à l'heure, il faut que chacun prenne soin de soi. Donc, parce qu'évidemment, si on n'a pas d'énergie et qu'on est complètement effondré, on ne peut rien faire et on ne peut pas du tout être dans une relation d'aide. On ne peut aider que si on a quelque chose à donner. Et pour avoir quelque chose à donner, il faut avoir quelque chose. Il faut avoir une énergie quand même en soi. Donc moi, c'est l'écriture, c'est le chant, c'est voir mes amis, c'est chanter, c'est aller dans la nature, c'est faire du sport. Mais il y en a d'autres, ça va être parler, ça va être aller au cinéma, regarder un film, ça va être écouter la radio. Il faut, oui, il faut vivre, oh là là.
Si je peux compléter ton propos, Anne-Marie, c'est passer la marche qui est difficile de se rendre compte qu'on n'est pas seulement aidant.
Ouais, ah, exactement, ouais. Oh là là,
C'est
oui.
qu'aidant fait partie, est un rôle, si je puis dire, à un moment donné dans la vie des aidants, mais pas seulement. Et l'aidant va passer par une période où il peut se perdre, justement, dans n'être plus que aidant.
Ah oui, exactement. Alors là, c'est vraiment ça. Et c'est aussi si je peux juste compléter, en parlant de mon expérience personnelle, c'est de dire qu'à un moment, se détacher de la personne qu'on aide. Et quand c'est sa mère ou son père ou son conjoint, c'est terrible parce que, évidemment, c'est difficile de ne pas souffrir en même temps. C'est difficile de ne pas voir la personne se dégrader, perdre voilà, mon père, il perdait ses muscles, ma mère, elle perd la tête pour parler, comme on dit, communément. Donc, se rendre compte qu'on n'est pas seulement aidant, c'est aussi se rendre compte qu'on n'est pas la personne qu'on aide et qu'on est séparé de cette personne. Et ça a été pour moi un pas essentiel à faire. C'est-à-dire, j'ai très souvent de la peine pour ma mère, mais je ne suis pas ma mère et j'essaye maintenant de ne plus souffrir à sa place, enfin de ne pas souffrir en même temps qu'elle.
Et du coup, pour compléter, c'est aussi retrouver son rôle d'enfant ou de conjointe ou de conjoint. C'est l'équilibre entre être l'aidant et conserver le rôle et le lien que l'on avait avant la maladie. Et tout ça, c'est un équilibre fragile.
Et tout ceci, c'est important de le dire, de le redire sur cette antenne notamment pour aider ces aidants à vivre tous ces moments aussi. Alors Anne-Marie, pour vous, la création, elle a agi comme palliatif, à minima évidemment. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a fait du bien?
Oui, oh là là, oui. Alors déjà parce que naturellement, c'est pour moi une façon de gérer justement mes émotions, les difficultés de l'existence. Ça peut aller de d'une période dépressive à l'adolescence, à une rencontre amoureuse ou à une rupture amoureuse ou à une interrogation existentielle. J'ai toujours écrit, j'ai toujours chanté, j'ai toujours joué. Donc pour moi, c'est de toute façon déjà quelque chose qui me permet d'être moi-même. Donc pour continuer sur cette idée lancée par Aline de ne pas être uniquement l'aidante, de ne pas être uniquement complètement dans l'empathie un peu trop forte avec la personne qu'on aide. Donc déjà, bien sûr, ça m'aide, mais alors cette pièce encore plus, parce que ce qui est beau, c'est que j'ai l'impression d'emmener ma mère sur scène, en fait. C'est assez émouvant parce que à la fois, bon, y a beaucoup de moments où j'exprime le fait que j'en ai marre, etc., et que c'est difficile, et qu'il y a de la souffrance et de la colère et tout ça, mais il y a aussi plein de moments où j'exprime que j'ai envie de l'aider et que je suis triste et que je l'aime, voilà. Mais comme en plus, je n'ai pas toujours, en tant qu'artiste, été très encouragée ou soutenue par mes parents, pour qui c'était un peu un univers oh là là, inconnu et dangereux, etc. Et il n'y avait pas de travail et tout ça. Donc de pouvoir l'emmener sur scène finalement, comme ça, symboliquement, et la représenter et mettre des mots et de la musique et du rire et des larmes sur ce que je traverse, bien sûr, ça fait énormément de bien, d'autant plus que pour l'instant, les retours sont extraordinaires. Donc, quand après une représentation, des gens viennent vers vous et vous disent « Oh là là, merci beaucoup, c'est exactement ce que je vis, oh là là, cette scène-là, ça m'a fait penser à ça. » Et puis alors, je vais en parler à ma voisine parce qu'elle vit ça aussi, etc., etc. Donc ça, évidemment, oui, ça fait beaucoup de bien.
Aline, de votre perspective, écrire, dessiner, parler, faire des activités, comme vient de le décrire Anne-Marie, c'est une nécessité pour certains aidants de le faire?
Alors, activité créative ou toute forme d'activité, finalement, peu importe la forme, mais le fait de pouvoir, à un moment donné, exprimer ce qu'on est en train de vivre, de pouvoir le partager, ou au contraire, tout un tas d'autres sujets, mais de pouvoir exister différemment que seulement en tant qu'aidant, oui, ça peut être un soutien fort, et puis ça permet le partage, la rencontre. quand on sait que la maladie va progressivement pouvoir isoler les dents, ça paraît une nécessité ou en tout cas important de pouvoir essayer d'aller à la rencontre des autres, que ça soit au sujet de la maladie ou pas, et puis de pouvoir aller à la rencontre de soi-même en rencontrant les autres et de se dire voilà qu'est-ce que je veux pour moi, de pouvoir questionner quelles sont peut-être ses limites dans l'accompagnement, quels les endroits où on va avoir besoin d'aide dans l'accompagnement de son proche. Ça permet de prendre de la distance avec ce qui est vécu au quotidien.
Et puis enfin, dernière question, Anne-Marie, la pièce, vous allez continuer de la jouer?
Il y a déjà 4 représentations qui sont prévues, 3 dans la région où j'habite, c'est-à-dire dans les Pays de la Loire, et puis une du côté de Montpellier. Voilà. Et puis il y a d'autres endroits qui ont manifesté leur intérêt. Donc là, c'est en discussion, c'est toujours très long hein, dans le milieu de la culture pour mettre en place des scènes et puis voilà, trouver des dates, etc. Donc, mais j'espère vraiment, moi quand j'ai écrit cette pièce, j'avais pas du tout de plan, hein, de toute façon, voilà, j'ai d'autres activités qui me permettent de gagner ma vie de temps en temps quand même. Donc, mais là, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé autour de cette pièce et puis surtout, j'ai eu le soutien de France Alzheimer Start. Par le président Jean-Claude Maignan, mais aussi Aline de Gracia, qui a énormément vraiment parlé de la pièce autour d'elle. Et donc, il y a des lieux où je vais jouer qui ont vraiment été trouvés grâce à leur enthousiasme, donc, et à leur soutien. Voilà. Donc là, la pièce va vivre. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à un moment, cette pièce, elle soit même investie par d'autres. S'il y a une autre comédienne ou un autre comédien qui veut, la prendre et puis la jouer, alors on fera des modifications. Il faut que ce soit quelqu'un qui puisse chanter à un moment. Mais bon, tout est possible. Mais c'est vrai que moi, tant que je peux la jouer et qu'on me demande de la jouer, je viens.
Eh bien, merci à toutes les deux de nous avoir accompagnées, d'avoir répondu à mes questions.
Merci.
Merci à vous. Au revoir, bonne journée.
Au revoir.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Continuez de nous écouter, de nous écrire. Vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio, www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.